Dictionnaire de la sagesse ancienne, avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour à tous, bonjour David.
Bonjour Dominique.
Alors aujourd'hui, nous allons, dans cette émission de Dictionnaire de la sagesse ancienne, nous allons parler de la voix du guerrier. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, on peut dire aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où on se dit, nous avons besoin de vivre en paix, nous avons créé l'ONU pour que les nations se parlent et arrêtent de faire la guerre. Finalement, la notion de guerrier, c'est pas très en vogue et ce n'est pas très bien vu. Alors, comment tu peux replacer le guerrier dans ce contexte d'une époque où on n'aime pas se faire la guerre, finalement, et on dit que la guerre, c'est mal?
Alors, bien sûr, par rapport à l'époque de maintenant, on ne peut plus se permettre la guerre. La guerre, ce serait une destruction totale. Donc, il faut comprendre ici un guerrier intérieur, c'est-à-dire la partie de nous, on va dire, suffisamment courageuse et volontaire pour faire face aux obstacles que la vie place devant nous. Donc il faut un guerrier intérieur. Mais il est vrai que dans les temps passés, il y avait une caste guerrière. Il y avait des guerriers pour défendre une ville, pour défendre des familles, pour défendre une culture, une civilisation. Et même Platon dit qu'on prenait parmi les meilleurs des hommes pour faire ces guerriers. Donc c'était une fonction tout à fait noble. Et je pense encore maintenant que même dans le travail, il y a des guerriers, des gens suffisamment volontaires et courageux pour s'opposer par exemple à la mafia, pour s'opposer à des choses très très importantes, à des luttes qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas armées, mais qui sont tout à fait importantes, justes. Et il faut des qualités de guerrier, je dirais, un guerrier juste, bien sûr, un guerrier éclairé, pour faire face à ces situations de la vie.
Donc le guerrier, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir la force de s'opposer au mal, par exemple. C'est pas forcément le guerrier qui va se battre pour aller prendre le territoire du voisin, devenir plus riche, ou etc.
Tout à fait.
Le guerrier juste est celui qui, justement, va s'opposer fortement et avec force, hein, au mal qui peut être en action quelque part dans le monde.
C'est, selon moi, la vraie définition du guerrier. C'est celui qui met sa puissance au service du faible, au service des plus démunis, de ceux qui ont le plus besoin, de ceux qui sont à un moment donné les plus vulnérables, pour une raison ou une autre. Et c'est le vrai guerrier, alors que l'autre, ça serait le guerroyeur ou le va-t-en-guerre, qui fait la guerre, pour asseoir son pouvoir personnel, ses ambitions, ses désirs. Donc oui, on est vraiment dans deux prototypes complètement différents. Donc bien sûr, on va défendre et on va parler aujourd'hui du guerrier juste. Le guerrier du cœur, on pourrait dire aussi.
Oui, celui qui va dans le bon sens. Alors, déjà, c'est cette notion de guerrier, c'est lié à un aspect divin. On parle toujours des trois aspects divins, le pouvoir, la volonté, l'amour ou bien l'intelligence. Donc le guerrier, ça serait plutôt quelqu'un qui est sur la ligne du pouvoir, de la volonté.
Oui, c'est quelqu'un qui incarne l'énergie du Père. Et on a trop eu une vision déformée par les monothéismes principalement, d'un Père non aimant, d'un Père sans bonté, un Père qui jugeait, qui condamnait éternellement, et qui choisissait des élus, etc. Donc on a une vision du Père tyrannique. On pense aussi à Saturne qui mange ses enfants. On a toutes sortes d'images comme ça, terrifiantes du Père, alors que le Père, pour moi, porte en lui la bonté, car le premier rayon vient avant le deuxième rayon. S'il y a un rayon d'amour et de sagesse, c'est qu'à la base, ces énergies-là sont présentes dans le 1. Si on a un, c'est qu'on a. Si on a deux, pardon, c'est qu'on a eu un, et on a deux fois un, donc on a ces qualités qui sont présentes, et je parlerais plutôt de bonté.
Oui, on doit dire
C'est
que tous
une
les
puissance de bonté, une volonté de bien.
tous les rayons qui sont des qualités, j'allais dire psychologiques, comme la bonté, l'amour, l'intelligence, l'harmonie, etc., sont toutes issues de ce fameux premier rayon de pouvoir qui est le dessein divin, finalement.
Oui, c'est la synthèse, c'est-à-dire que toutes les énergies qui vont se développer après, alors on parle de sept énergies primordiales, c'est pour ça qu'on a le chiffre 7 qui revient dans toutes les traditions, mais en effet, tous les rayons proviennent du 1, et c'est pour ça que c'est le 1, bah c'est le 1, il est entier, et pour les anciens, avant 1, c'était pas quelque chose de restreint, c'était quelque chose de synthétique, de global, de total. Donc on a une forme de bonté inhérente au premier rayon, et à ce moment-là, on parlerait de puissance bienveillante ou de volonté de bien, pour moi, ce sont la vraie définition du premier rayon et l'énergie qui est censée être véhiculée par ces guerriers, ceux qui sont les représentants du Père bon, mais du Père aussi volontaire, puissant, qui
Voilà.
sait mettre sa puissance au service du bien.
Donc le pouvoir, c'est quelque chose qui peut être éminemment positif avec une volonté de bien. Quand on regarde ce qui se dit à la télévision, tout le monde a une vue négative du pouvoir, comme souvent de l'abus de pouvoir ou de la manipulation. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a un vrai pouvoir qui, lui, est basé sur la bonté et sur une intention de bien.
Oui, mais on aime aussi le pouvoir, on parle d'homme de pouvoir, d'homme puissant, d'homme volontaire. Je pense qu'il y a aussi les aspects positifs qui sont vus. Mais c'est vrai qu'on a très vite fait d'associer au pouvoir quelque chose de négatif, un abus de pouvoir. On oblige d'ailleurs de rajouter des mots, parce que le pouvoir, c'est une énergie qui est complètement neutre à la base. C'est une énergie
Oui,
qui peut être utilisée
c'est
d'une
la
façon
force, c'est la
malveillante comme
puissance. C'est
bienveillante.
oui,
C'est
tout à
l'énergie de
fait.
la vie.
Alors, est-ce qu'on peut aller chez les hindous? Alors, parce que les hindous, ils ont Shiva qui représente ce pouvoir. C'est un guerrier, Shiva?
Alors c'est intéressant parce que Shiva, le mot veut dire bénéfique. Et on a dû appeler cette énergie-là comme ça, Shiva, pour qu'elle nous soit bénéfique, tant on la considérait comme une énergie puissante, parfois dévastatrice. On dit que Shiva détruit, mais il régénère aussi. Donc on voit les deux aspects, destructeur et constructeur. Quand on régénère l'univers, c'est qu'on lui permet de se recréer quelque part.
Oui, je voudrais juste interrompre pour l'auditeur. La notion de destruction, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif, puisqu'il s'agit de détruire, par exemple, quelque chose qui n'est plus utile, comme on détruit un vieux bâtiment avant d'en reconstruire un autre.
C'est bien sûr, ça fait partie de la vie. On détruit, on laisse tomber plein de choses, on abandonne des choses, Dieu merci, et même notre corps. Imaginez qu'on soit obligé de garder un corps qui, pendant des centaines d'années, qui vieillirait davantage, davantage. Heureusement que notre corps meurt. Donc on a des cellules qui meurent constamment pour se régénérer. Donc en fait, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Pour moi, vie et mort sont des énergies synonymes qui sont liées au premier rayon. La vie et la mort. Ce sont deux pulsions, deux puissances. Et elles sont liées à cet aspect destructeur et cet aspect aussi régénérateur ou entretien de la vie. Parce que le premier rayon aussi stimule la vie, il l'entretient. Nietzsche parlait de volonté de puissance et il voyait dans la volonté de puissance une force qui agissait même dans les végétaux, dans les pierres, dans les mouvements des planètes, dans leur existence même. Et Nietzsche était sous l'aspect de l'influence du premier rayon. Donc il vivait naturellement cette énergie-là, cet état de fait. C'est avant la morale, c'est avant la psychologie, c'est avant la conscience, c'est avant l'amour et la sagesse. C'est ce qui rend possible l'expression de l'amour et de la sagesse.
Alors, si on revient aux hindous, donc à Shiva, alors on parle souvent en Inde de Ganesh, hein, le dieu éléphant. Donc l'éléphant, c'est la force et la puissance. Et alors, j'ai vu, on l'appelle pour commencer une journée, pour commencer un
Oui.
projet, on fait appel à sa force pour détruire, pour vaincre les obstacles.
Oui. Oui, c'est une énergie, comme tu le dis, pour inaugurer et en même temps permettre que la chose puisse s'accomplir. Il y a l'idée de l'Enganesh que quelque chose va être inauguré et qu'il faut la protection pour cette entreprise, quelle qu'elle soit, pour que cette entreprise puisse être menée à bonne fin, arriver à sa fin. Et on met même parfois aussi des Ganesh ou alors des symboles de Ganesh au-dessus des maisons ou alors dans les temples, car il protège aussi les lieux sacrés. Mais c'est l'énergie de Mercure. Ganesh est relié à l'énergie mercurienne. Et c'est cette énergie qui permet d'accomplir les choses, qui permet aux choses d'être inaugurées, on pourrait
C'est un
dire.
initiateur, alors.
Oui, c'est
Il
une énergie
aide
pour initier, oui.
pour initier quelque chose. Et alors, on a aussi Skanda qui est un fils de Shiva,
C'est un autre
Skanda.
fils de Shiva. En fait, pour être même exact, normalement Ganesh n'est pas un fils direct de Shiva, c'est un fils de Parvati. Il vient de la sueur de Parvati. Mais Parvati, c'est la Shakti de Shiva. Alors que Ganesh vient du sperme de Shiva. C'est directement la création pure.
Ganesh ou
Pardon.
Skanda?
Skanda, pardon. Skanda est la création pure. Sans passer par une femme, je dirais, par un élément féminin, Ganesh est plus brut encore, plus direct. C'est une autre forme d'énergie, une autre forme de volonté, et ça serait l'aspect guerrier de Shiva proprement dit, car on le représente toujours avec une lance. Il a une lance, et tout, on retrouve ça dans d'autres héros mythologiques, quand il lance justement sa lance, c'est le cas de le dire, elle lui revient. Il a vraiment, c'est un dieu qui tue des démons, et en fait, il est même créé et invoqué par les dieux pour qu'il puisse détruire le démon symbolisé par Taraka. C'est-à-dire, on demande à Shiva de produire son fils, une manifestation de lui-même pour détruire le mal. Donc, c'est l'aspect martien, c'est Mars. Et là, j'ai dit une erreur tout à l'heure en disant accomplir, c'est lui plutôt qui est dans cette volonté d'accomplir, hein. Ganesh, il initie, il protège, on a vu, il inaugure. Mais lui, il persévère.
Lui, c'est qui? C'est
Skanda,
Skanda.
l'énergie de Mars, c'est une autre forme de volonté qui persévère, c'est une énergie de détermination, qui pousse à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement d'une action. Toujours, à chaque fois, c'est toujours lié au dessein divin.
Alors, c'est intéressant parce que les hindous, cette notion de comment dire de Shiva, Skanda, Ganesh, donc cette notion liée de guerriers, parce qu'ils ont aussi une caste des guerriers, donc c'est quelque chose de très fort chez eux, qu'on n'a pas forcément dans nos civilisations occidentales, hein. Et c'est lié aussi parce que l'Inde est sur cette énergie du premier rayon.
Voilà, de puissance, de volonté. C'est pourquoi l'éléphant, qui est aussi un animal sur cette énergie-là, l'éléphant a été choisi souvent comme modèle de l'Inde. Il était souvent associé à l'Inde, et Ganesh représente l'Inde aussi, parce qu'il représente cette énergie de puissance qui est incarnée par l'éléphant, qui est un animal d'une puissance évidente. D'ailleurs, qu'on sait que quand l'éléphant charge, on ne peut plus l'arrêter, on est obligé de l'abattre, tellement sa volonté est inébranlable. Elle est capable aussi de beaucoup de douceur parce qu'il est touché par le deuxième rayon d'amour-sagesse. Donc on a chez l'éléphant un mélange assez intéressant de ces deux énergies-là. Mais oui, en effet, l'Inde est touchée par cette énergie-là. Et la caste des guerriers en Inde correspond donc à la noblesse. Et cette caste, c'est souvent opposée d'ailleurs à l'autre caste. La caste sacerdotale, la caste religieuse, celle des brahmanes. Et la caste guerrière a beaucoup défendu l'Inde. En fait, dans tous les peuples, tu disais qu'en Occident, on n'a pas forcément ça. Si, si, on avait la noblesse guerrière, l'aristocratie, c'est une noblesse guerrière à la
C'est
base,
vrai
hein.
qu'ils défendaient, qu'ils protégeaient les populations.
Voilà, on a toujours eu ces trois castes. Platon en parle. Il parle d'une âme en trois niveaux. Alors en général, on avait tendance à mettre la caste sacerdotale d'abord, bien que pour moi c'est la deuxième. Platon disait qu'elle était reliée à la tête, donc à la sagesse, à la raison. Au cœur, il reliait le courage, la force, donc la caste guerrière. Et au ventre, la caste marchande, la caste qui est plus reliée aux fonctions agricoles et végétatives. c'est-à-dire ceux qui produisent les biens, mais aussi ceux qui guérissent. Donc on a toujours eu une caste guerrière partout dans les pays. Et on a encore maintenant, on a encore l'armée, on a encore la police. Moi, je pourrais aussi peut-être mettre les pompiers. On a encore des corps de métier qui représentent cette énergie de défense
Et de
et de
protection, et
protection.
de protection. Oui, donc ça repositionne le guerrier dans sa fonction utile
Voilà, c'est une
et
fonction
nécessaire.
utilitaire et nécessaire. S'ils existent, c'est qu'on a toujours eu besoin du fait de l'hostilité parfois des voisins, alors aussi pour servir une ambition. Alors oui, on a toujours eu besoin de cette caste guerrière, elle est utile et nécessaire face aux hostilités, soit des voisins, soit la propre parfois hostilité du pays qui voulait envahir, conquérir. Donc là, c'est un mauvais usage de ce corps de métier, mais on a toujours eu donc ces corps-là. On a même eu certains pays, ou alors même à l'intérieur de certains pays, je pense en Grèce par exemple avec Sparte, on avait même des peuples qui étaient spécialisés dedans. Des peuples qui étaient sûrement, ou des parties du peuple qui étaient sous cette influence-là. On avait des villes, on avait des régions qui étaient réputées pour donner de très bons guerriers.
Il y a des guerriers qui sont, il y a des peuples guerriers, il y a un rôle particulier des guerriers, que c'est lié à une énergie, puisqu'on a parlé de cette énergie de volonté, de pouvoir. Alors, la terre est immergée, j'allais dire, au sein du cosmos. Et ces énergies de pouvoir, de volonté, comment est-ce qu'elles arrivent sur Terre, parce qu'elles sont bien, elles viennent de quelque part, puisqu'on est baigné dans le cosmos et dans les énergies du cosmos, et que finalement, il doit y avoir des planètes qui sont plus ou moins sur cet aspect de la volonté.
Alors, en amont même, il y a des constellations, deux grandes constellations importantes. On a la constellation qui forme actuellement l'étoile polaire. Je pense à la Petite Ourse. Et donc, l'étoile polaire, c'est la première étoile de la Petite Ourse. Et c'est l'énergie qui attire irrésistiblement le pôle nord de la Terre. Donc, il y a toute une symbolique avec la couronne aussi. La couronne, c'est royal. Donc on voit toujours qu'avec la guerre, il y a quelque chose aussi de toujours de royal, quelque chose qui est lié au sommet, donc au sommet de l'État, comme au sommet donc des fonctions. On a aussi au sommet donc du corps sur la tête, la couronne. Et la couronne même de la Terre est attirée par ce grand centre, cette grande puissante énergie de premier rayon.
La couronne, c'est le pôle Nord,
Le
c'est
pôle
ça?
Nord, voilà. Est attirée par l'étoile polaire, qui est actuellement, c'est l'étoile de la Petite Ourse. Et cette étoile forme un triangle avec deux autres étoiles qui sont dans la Grande Ourse. Donc tout ça, ce sont des constellations qu'on peut toujours voir au nord, hein, dans l'hémisphère nord. Et dans la Grande Ourse, il y a une étoile principale, c'est l'étoile Mérak, qui incarne l'énergie du premier rayon. Il y a sept étoiles à chaque fois, donc à chaque fois on prend c'est la première étoile selon moi dans les deux gardes. Mais si les gens regardent sur une planisphère, s'ils essayent de voir une carte des étoiles plutôt, ils verront que pour que l'étoile de la Petite Ourse touche l'étoile Mérak, elle passe par une autre étoile, et c'est une étoile secondaire, c'est l'étoile Dubé. Si on regarde la casserole, parce que la Grande Ourse forme une casserole, c'est les deux étoiles qui sont à l'opposé de la queue de la casserole, hein. Et donc l'énergie du premier rayon provient de ce grand triangle-là. Et après, bien sûr, elle va passer par différents signes zodiacaux qui, selon leur régent planétaire, vont transmettre via leur planète cette énergie de premier rayon à des niveaux différents.
Alors, est-ce que le rayon de la volonté, du pouvoir, est-ce que ce rayon influence beaucoup la Terre?
Profondément, à un niveau qui est sous-jacent à notre évolution, à un niveau caché, occulte profondément. C'est-à-dire qu'une planète, comme un être humain, a trois rayons, trois niveaux d'expression. Un niveau personnel, c'est ce que l'on voit, ce qui est apparent. La persona, c'est le masque, c'est ce que tout le monde voit. Il y a un rayon pour l'âme et un rayon pour la monade, c'est-à-dire l'essence. Et le rayon de la monade, lui, est sur un des trois aspects, c'est-à-dire soit la volonté, soit l'amour, soit l'intelligence. Et dans les enseignements d'Alice Bailey, on apprend que la monade de la Terre se trouve sur le premier rayon. Donc oui, la volonté sous-tend toutes les évolutions sur Terre. Elle se trouve en arrière-fond, en arrière-plan. Et tous les rayons qui parviennent par la Terre, qui arrivent sur Terre, sont en quelque sorte des sous-rayons, transitent par ce rayon 1 de la Terre.
C'est pour ça qu'on se bagarre tellement sur Terre?
C'est pour ça, entre autres, c'est pour ça que l'évolution est aussi dure et aussi cruelle, car ce premier rayon s'exprime au niveau de la personnalité par le rayon 3, qui est le rayon de la forme, de la matière. Donc on expérimente des choses très difficiles au sein même de la matière. Sur Terre, la Terre incarne une autre forme d'énergie, de volonté. On a parlé de Mercure, de Mars. Eh bien, la Terre essaye de démontrer la volonté de victoire. C'est la volonté de victoire de l'esprit sur la matière. C'est ce qu'on
Oh là, il y a du
expérimente.
boulot là.
Il y a du travail.
Il y a du boulot, on n'y est pas encore.
Non, c'est pour ça que c'est un dessin planétaire. C'est quelque chose qui c'est pas un événement, c'est un processus, mais le processus contient son début et sa fin. C'est ça le dessin en fait. C'est quelque chose qui contient l'alpha et l'oméga en même temps. C'est-à-dire que inexorablement la Terre finira par conquérir la matière. C'est son dessein et c'est ce qu'elle doit démontrer. C'est pour ça qu'on fait l'expérience de la matière la plus dense sur Terre. Mais pour vous démontrer notre aptitude à en avoir la maîtrise et à la conquérir.
Alors, on dit aussi que Shambhala, hein, Shambhala, c'est un centre, le centre divin de la volonté sur Terre. Est-ce que le fait que ce centre divin soit sur la volonté, est-ce que c'est lié au fait que la monade de la Terre est sur l'aspect volonté?
Non, c'est quelque chose qui est lié à chaque planète, si on considère qu'il y a des évolutions subtiles, même si on ne les voit pas sur les autres planètes, mais il y a l'équivalent d'un centre de volonté sur une planète, d'un centre d'amour-sagesse qui correspondrait ici à l'évolution des maîtres de sagesse, et un centre d'intelligence qui correspondrait à l'humanité. Et donc, pour faire image, ça serait là où on a dans un corps d'armée, ça serait les officiers supérieurs, on pourrait dire. Ça serait les empereurs. Les généraux, ça serait, c'est ça, ou alors les PDG pour une entreprise, ça serait ça, Shambhala. Ce lieu où la volonté de Dieu est connue. Et puis il y a les agents intermédiaires, les maîtres d'amour, de sagesse et l'humanité. Donc non, c'est pas lié, mais bien sûr, du fait que la planète soit sous cette influence-là, ce lieu, cette expression de volonté va être d'autant plus importante.
Alors, si je reprends pour qu'on comprenne bien le dessin de la Terre, tu as dit de passer de la matérialité à l'esprit, hein,
Conquérir, voilà,
de
cette volonté de conquérir.
conquérir l'esprit, alors, de
C'est plutôt
laisser
l'esprit
l'esprit qui
conquérir la matière,
conquiert la
toutes les
matière,
entraves.
ouais. Et pour nous humains, la grande bataille, parce qu'on est toujours en bataille contre le mal, c'est quoi? C'est nos émotions, nos peurs, nos désirs, la matérialité, c'est tout ça, la
Alors,
bataille de tous les jours?
en fait, si on est aussi attaché à la matière, c'est qu'on y est attaché émotionnellement. L'ésotérisme déclare qu'il y a trois formes de matière. Il y a la matière, bien sûr, que l'on connaît tous, objective, que l'on voit, faite des différents éléments, terre, eau, air, feu, voire éther, c'est de la matière. Mais on a une matière plus subtile, c'est celle de nos émotions. Et une matière encore plus subtile, celle de nos pensées. Mais du point de vue de l'âme, et encore plus de la monade, du soi, ce sont des éléments de matière plus ou moins subtils. Donc on doit conquérir ces différentes formes de matière. Et actuellement, l'humanité est polarisée sur le plan émotionnel, enfin actuellement depuis des millions d'années en fait, et on n'arrive pas à en sortir. Et ces désirs nous poussent à être davantage matériels, au-delà de ce que l'on devrait l'être, parce que la matière a un dessein, et donc on est irrésistiblement mu par des désirs, alors des désirs, ça peut être des désirs sexuels, des désirs d'argent, des désirs de célébrité, de reconnaissance, de pouvoir justement, mais tout ça, ce sont toujours des désirs. Et la plus grande bataille, c'est la bataille et donc la victoire sur nos émotions. nos sentiments, ce qu'on appelle le mirage.
Donc tout le monde, chacun de nous a en soi un guerrier finalement qui doit s'occuper de surmonter ses désirs et de les détruire finalement pour s'élever au-dessus.
En quelque sorte, oui, chacun va l'exprimer à travers sa propre note, mais on doit, sur Terre, quelque part, on est soumis à des tests, à des épreuves. Alors, sur toutes les planètes, si on accepte l'évolution invisible sur d'autres planètes, ça serait le cas, ou même si on accepte en dehors du système solaire d'autres évolutions. Mais le fait est que sur Terre, on est forcé de croire qu'on est soumis à des épreuves, à des tests, à des difficultés, des embûches. On est forcé de persévérer, on est forcé d'initier des nouvelles choses, de persévérer et de vaincre. On est vraiment soumis à cette forme d'évolution. C'est pas doux. C'est pas doux. Si on avait le choix, si on veut une évolution douce, faut pas venir sur Terre.
Ah bah oui, mais c'est trop tard, on y est.
C'est pas.
C'est un environnement qui est difficile.
C'est hostile, mais il suffit de regarder le journal pour s'en rendre compte, de voir l'histoire de l'humanité. Certains ne croient pas que l'humanité évolue de ce fait, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de cruauté, il y a encore de la torture, on viole encore des enfants, on fait toutes sortes de. Il y a encore des esclaves modernes qui sont exploités au niveau du travail. On a toutes sortes de choses injustes et des conditions qu'on pourrait largement améliorer. Mais voilà, c'est une évolution, une planète difficile, mais je dirais la victoire n'en sera que plus grande.
dans la première partie de cette émission, nous avons parlé du guerrier et nous avons montré qu'il y a un aspect essentiel, un aspect divin essentiel qui est le pouvoir, la volonté. Souvent on dit que Dieu est amour ou Dieu est intelligence et on oublie de dire qu'il y a un dessein divin, un pouvoir et que les guerriers, le guerrier juste arrive à exprimer ce pouvoir, cette qualité de pouvoir. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner, David, des exemples dans le zodiaque? Il y a des manifestations, il y a des signes qui sont plus particulièrement des signes de la mort. Parce que qui dit derrière dit destruction, dit la partie mort dans le cycle mort et vie.
Oui, alors dans l'évolution humaine, on peut en prendre trois. Le bélier, le scorpion, les poissons. Donc on a le bélier, c'est le début. Le scorpion, il est pratiquement au milieu, c'est le huitième signe, et le douzième, ce sont les poissons. Et chacun démontre une forme de mort particulière. Avec le bélier, pourquoi c'est une forme de mort? Parce qu'on initie quelque chose de nouveau. On retrouve encore ces trois phases d'expression de la volonté. Par exemple, si on prend l'évolution humaine, longtemps, pendant des milliers d'années, si on croit au cycle de la réincarnation, ou même de l'évolution humaine en elle-même, l'humanité tente d'exprimer ce qu'elle est, c'est juste sa personnalité. Et puis vient un moment où on commence à vivre des premières morts, on commence à se retourner, dit-on, sur la roue, et on va commencer à initier un nouveau cycle. On va commencer à vivre plus spirituellement, on va commencer à s'attacher à des valeurs autres, et donc on inaugure quelque chose de nouveau. C'est là que les gens commencent à changer leur façon de vivre, leur façon de manger, leur façon de penser, de parler, de se comporter. Ils commencent à pratiquer par exemple du tai chi ou de la méditation, que sais-je encore. On est un aspirant quelque part, on se met sur le sentier et l'énergie du bélier permet de prendre une nouvelle voie, c'est une énergie qui impulse. Et après, on se rend compte qu'il ne suffit pas de se mettre sur le sentier, on arrive au deuxième signe dont on parlait tout à l'heure, qui est le signe même qui synthétise de façon générale même l'état de guerrier, c'est le signe du scorpion. Son mot-clé, c'est « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Et cette bataille, c'est la bataille, comme on le disait tout à l'heure...
Entre ses émotions, c'est ça ?
Voilà, entre la pensée, la raison, on pourrait dire, et les émotions, le désir... Platon en a beaucoup parlé, c'est le thème de la philosophie par excellence, hein, que la raison l'emporte sur la passion. Et il y a une véritable lutte en nous, une bataille. Et le scorpion symbolise cette volonté d'accomplir, de réaliser, de dépasser cette soumission au désir, à l'instinct, aux émotions, pour pouvoir faire en sorte que le mental, qui est le véhicule de la raison pure, puisse dominer. Et puis la troisième mort, elle est plus occulte, c'est la mort dans les poissons, et ça correspond pour l'humanité le moment où les grands initiés s'identifient à leur soi. Et à ce moment-là, on dit qu'ils meurent...
Attends, leur soi, c'est leur partie divine, c'est la partie la plus élevée de la personne.
Tout à fait. C'est le soi, la monade, l'étincelle, l'esprit. Et l'âme a longtemps servi d'intermédiaire entre l'esprit et la personnalité, et vient un temps où l'âme n'est plus nécessaire, donc l'initié va même mourir. On parle de crucifixion pour le Christ ou du grand renoncement en Inde. On renonce même à son âme individuelle et on perd même ce qu'on appelle le gardien du seuil, cette espèce de moi illusoire. Et à ce moment-là, on s'identifie au soi et c'est une forme de mort la plus occulte, la plus intérieure possible. Et ça, c'est symbolisé par le signe des poissons qui est un signe de dissolution. Un signe où, pour faire image, le cours d'eau se jette dans l'océan. C'est ça, les poissons.
Ah oui, il n'existe plus, quoi.
Voilà, on se perd, on fusionne. C'est un signe de fusion. Donc voilà un peu pour les trois signes qui chacun incarne une des trois formes de volonté. Le bélier, la volonté d'inaugurer, d'initier. Le scorpion, la volonté d'accomplissement. Et les poissons, qui sont une forme de volonté de conquête totale, de maîtrise, de réussite, de victoire.
Est-ce que tu peux nous développer, nous parler de quelques grands héros, de Rama, Hercule ou Mars ou d'autres, qui sont dans les traditions et qui symbolisent cette force de volonté?
Alors si on commence par les dieux, on a dit que donc Shiva, un fils, il s'appelle Skanda, c'est l'équivalent, c'est le prototype du dieu Mars, hein. Il faut savoir que Skanda est même rattaché à un très vieux dieu en Inde qu'on appelle Muruga, qui est un dieu dravidien, donc des peuplades qui existaient en Inde avant même la vision, l'arrivée, pardon, des Aryas, donc des Caucasiens, des peuples d'Asie centrale. Il y avait donc ces dravidiens, ils honoraient un jeune guerrier avec une lance, d'ailleurs, c'est Muruga. Et donc c'est le prototype du dieu martien et martial, je dirais. Mais il y a eu différents héros, différents hommes qui ont incarné cette énergie du guerrier, et on pense à Hercule. Alors il faut savoir qu'il y a chez les Grecs comme chez les Romains, des empereurs qui se réclamaient de Mars ou alors d'Hercule, qui pensaient être une manifestation. C'était d'ailleurs des hommes qui étaient beaucoup sous l'influence du premier rayon, hein, de puissance, et aussi du sixième rayon d'énergie, de dévouement, de dévotion, d'idéalisme, qui se marient très très bien et qui renforcent le premier rayon.
Alors, est-ce que tu peux nous parler d'Hercule? Alors, est-ce qu'on peut venir? Parce que tout de même, un des héros de la volonté, de la force, c'est bien le Hercule.
Alors Hercule, on pense que c'est un dieu grec, parce qu'on honorait à Thèbes. Ce que dit Madame Blavatsky, une ésotériste du 19e siècle, c'est qu'en fait Hercule provient d'Inde. Et certains autres penseurs grecs aussi avaient fait cette parenté. Par exemple, ils pensaient aussi que Dionysos venait d'Inde. Et Hercule, c'est Arikoula. Et c'est qu'est-ce que c'est Arikoula? C'est le clan Koula, Ari solaire. C'est le clan solaire. C'est-à-dire, c'est une lignée solaire qui vient du Manu. Pour
Attends, tu peux expliquer qui est le Manou?
le Manu, c'est l'homme primordial, c'est l'homme qui est à l'origine des Aryas, des Aryens en Inde, hein. Donc des Indiens qui sont arrivés après les peuples dravidiens en Inde. Et pas seulement en Inde d'ailleurs, ils sont allés en Iran, et puis après ils sont devenus les Indo-Européens en fait, hein, les différents peuples de type caucasien, on dirait maintenant. Les Indo-Européens ont donc comme origine Manu. Et on peut même ouvrir Manu en tant qu'ancêtre de l'humanité, hein, si on l'ouvre à des perspectives plus grandes. Mais si on en reste là, c'est intéressant de voir que pour les Indiens, Manu est le fils du soleil et le fils du grand Rishi qui correspond à cette première étoile de la Grande Ourse dont on a parlé, l'étoile de premier rayon.
Donc ils faisaient le lien avec les étoiles
Ils ont
dans leur tradition.
sept Rishis primordiaux, qui sont chacun reliés à une des étoiles de la Grande Ourse. Et ésotériquement, on peut relier Maharishi, il s'appelle comme ça, Maharishi, on peut le relier à la première étoile de la Grande Ourse, Merak, qui transmet le premier rayon. Et donc on a une succession comme ça, on pourrait presque dire apostolique, avec Maharishi, Kashyapa, ça veut dire c'est un rayon, donc c'est le rayon, c'est le premier rayon, on pourrait dire, c'est le rayon de lumière. Puis on va avoir le soleil, on a Manu, qui est le fils du soleil, et on a après Ikshvaku qui va donner naissance à la lignée solaire. Et en Inde, c'est très important, il y a deux grandes lignées, une lignée lunaire et solaire, et beaucoup de héros, guerriers, se réclament de cette lignée solaire et sont apparentés à cette lignée solaire. Et donc les Arikoula, il semble que ce soit à l'origine un terme générique, les Arikoula, ce sont ceux qui sont les descendants, qui sont rattachés à cette lignée solaire. Et les textes indiens parlent d'une migration du Manu que l'on trouve avec un autre nom en Égypte, qui est Ménès, le premier pharaon. Les hindous disent qu'une colonie indienne s'est rendue en Égypte. Et on pense même que le culte solaire vient de cette colonie-là, et que le culte donc des pharaons, de ces grands empereurs, de Ménès ou de Manu, qui a eu une forme d'émigration comme ça en Égypte, et avec le clan des Arikoula, justement. Donc Hercule viendrait d'Inde, on le retrouve à Thèbes en Égypte, c'est Louxor maintenant, et il est honoré à Thèbes après seulement en Grèce. Donc les Grecs ont importé beaucoup de cultes, et notamment le culte d'Hercule, le culte des Arikoula. Et grosso modo, le culte d'Hercule, c'est un culte à mystère, et c'est l'idée d'un héros qui accomplit 12 exploits. Et c'est pourquoi on avait des mystères à Thèbes qui étaient basés sur des épreuves. On parlait des 12 épreuves
C'est les épreuves
et
initiatiques.
initiatiques qui sont transmises qui sont représentés sous forme allégorique par les exploits, les travaux d'Hercule. Mais symboliquement, donc, ces travaux, chaque travail représente une victoire sur soi-même. Donc, on a Hercule, et les enseignements ésotériques disent qu'Hercule a travaillé. C'est Benjamin Crème qui dit ça, un ésotériste moderne. Benjamin Crème dit qu'Hercule a adombré, a travaillé à travers un autre grand héros mythique de l'Inde, c'est Rama.
Alors, tu peux nous dire un peu qui est Rama?
Rama, c'est un héros, c'est un guerrier, qui, c'est le prototype du prince charmant, Rama. On lui enlève Sita, Ravana, un démon du Sri Lanka, lui enlève sa femme, et il est chassé déjà, il est déchu de son trône, pour des histoires de belle-mère, de famille. Bref, il y a une injustice notoire, il est exclu, il va vivre dans la forêt, sa femme est enlevée, il va mobiliser une armée pour aller chasser les démons au Sri Lanka. Symboliquement, il descend aux enfers. Et c'est le prototype des princes charmants. C'est le premier, d'ailleurs on l'appelle Rama le charmant, Rama Chandra. Chandra, c'est la lune, mais ça représente le côté charmant, magnétique de Rama. C'est le héros qui est porteur du héros, comme on dit aussi. Héros, c'est le désir. Et Rama était un mélange comme Hercule de premier et de sixième rayon. Le sixième rayon, c'est le désir, c'est l'aspect inférieur de la volonté quelque part. Et c'est un mélange de cette volonté, de cet idéalisme, qui va donc faire tous les efforts pour aller chercher sa bien-aimée. Et on va retrouver ça dans le roman courtois, dans tout l'art chevaleresque, avec la dame, le chevalier qui doit conquérir sa belle, sa dame, la sauver des griffes du dragon ou d'un enlèvement, quel qu'il soit. Donc c'était présent déjà en Inde depuis très longtemps. Et Rama, voilà, est un de ces héros archétypales de l'Inde. Et on retrouve une autre manifestation proche de Rama, qui est Balarama, donc la force de Rama, qui est le frère de Krishna. Et lui aussi, alors il est très très proche d'Hercule. Balarama, il a une peau de tigre, il a une massue, il tue des bêtes féroces, sauvages, il accomplit des exploits. On a vraiment si on ne croit pas à l'histoire des Harikula, on est forcé de reconnaître en Balarama le prototype du héros grec. Les Indiens pensent que l'époque de Krishna, c'est grosso modo 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a plusieurs personnages comme ça, archétypales, qui sont souvent, je disais, un mélange de volonté, de puissance, de premier rayon, et de dévouement, de sixième rayon, de courage, de force.
Alors, si on peut reprendre les guerriers, alors on a vu qu'il y a des formes archétypales. Bon, après, plus tard, on parlera de la guerre sur Terre, mais est-ce que la notion même de guerre, de bataille, est-ce qu'elle n'existe pas que sur la Terre? Est-ce qu'elle n'existe pas dans les cieux aussi?
Oui, dans toutes les religions, enfin pardon, les mythologies on devrait dire, mais les religions, on retrouve aussi cette fameuse guerre dans le ciel. Il y a ce combat, cette lutte entre les forces du bien, les forces du mal, les forces du chaos, les forces de l'ordre, de la loi, de la justice. On a en présence, mais même à l'origine du monde, en présence ces deux grandes forces qui vont s'opposer et continuer de s'opposer à travers des lignées très différentes. Et on a en effet, en Grèce par exemple, la titanomachie, qui est la guerre entre les titans et les dieux.
Donc cette notion de guerre, elle n'est pas circonscrite à la terre. Donc de toute façon, le mal, ce serait, c'est, enfin le mal, c'est une façon un petit peu péremptoire de le dire. Il existe sur terre, mais il est aussi cosmique.
Oui, il a une origine cosmique, il serait lié à l'imperfection des choses, l'imperfection de la matière même, et à l'idée qu'il y a des êtres encore imparfaits, mais d'une nature, d'une stature telle que pourrait donner l'image que les courants purs sont à un moment déviés, dévoyés, transformés. Donc il y aurait un mal cosmique qui agirait sur Terre, en tant que mal planétaire, et on aurait tous en nous cette propension à exprimer nos instincts les plus bas, nos émotions et nos pensées les plus viles, du fait de cette matière imparfaite. Je parlais du physique, de l'émotionnel, du mental. On est constitué de cette matière imparfaite, et ça a des origines très lointaines. Donc c'est ça l'idée du mal. Et s'il y a une titanomachie, alors les Indiens disent Taraka Maya, c'est la Maya, l'illusion de Tara. S'il y a cette guerre, c'est lié aux origines même du monde, et sur Terre, on a notre petite quote-part, notre petit bout, on pourrait dire, de karma de mal à expurger, à dépasser, et chaque individu en porte une petite partie. C'est pour ça que on est des êtres imparfaits. On est pur en tant que soi, mais en tant que qu'âme incarnée, on est souillé. Alors, entre guillemets, symboliquement, parler de péché originel, si on voulait l'accepter, ce serait dans ce sens-là, à ce moment-là. C'est-à-dire que, non pas dans notre nature spirituelle, mais dans nos matériaux, on est constitué de matériaux imparfaits. Donc il y a des luttes, et c'est pourquoi il y a à ce moment-là, à certains moments, des guerres qui se déclenchent.
Oui, c'est inhérent à l'univers finalement, cette notion de guerre, comme inhérent à l'univers les notions de yin et de yang.
On pourrait dire ça si on voulait caricaturer. On pourrait. Je pense que quand on fait yin-yang, on est dans quelque chose de dualiste bien mal. Il faut plutôt comprendre qu'il y a un mélange, que notre nature spirituelle se mêle à des ingrédients, à des matériaux plus ou moins parfaits. Et au fur et à mesure de l'évolution, ces matériaux changent. Alors plus on est avancé, surtout si on est sur le premier rayon, certains grands hommes sont à un moment capables de canaliser cette énergie-là, de l'incarner. Et tout dépend de leur degré de pureté. Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser cette énergie-là en tant que volonté de bien ou en tant que volonté de mal, si on voulait caricaturer, hein?
Alors tu parles de volonté de bien, de guerre, mais si on prend des exemples récents de la dernière guerre mondiale, là, on était vraiment dans un conflit avec des dirigeants extrêmement puissants, un conflit qui était vraiment entre une domination de dictateurs et puis aussi des gens qui voulaient instaurer une démocratie. Et cette guerre a été mondiale, elle a généré énormément de morts et de souffrances. Donc on a bien des exemples de... Là, c'était le bien et le mal, mais le mal aussi est guerrier.
Tout à fait. On a une explication la plus occulte possible dans les ouvrages d'Alice Bellet, notamment pour ceux que ça intéresse, Extériorisation de la hiérarchie, où il est question des dessous de la guerre. Et on a l'idée que donc les forces de la matérialité, les puissances du mal, si on voulait les appeler comme ça, ont œuvré à travers les trois pays de l'Axe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Italie, avec Mussolini, a plus incarné le mal d'un point de vue mental. D'ailleurs, on le trouve dans l'idée que le fascisme a été le modèle du nazisme, hein, d'un point de vue idéologique, même vestimentaire, à plein de niveaux, hein. Au début, Hitler admirait Mussolini. Hitler et l'Allemagne ont représenté le mal au niveau émotionnel, astral, et le Japon, le mal physique. Et on a des généraux comme Hanami, par exemple, qui étaient des guerriers jusqu'au boutiste, hein, qui étaient prêts à aller jusqu'à sacrifier leur pays. Donc on a trois formes de mal, et en face on a eu des grands leaders qui se sont opposés. On a Churchill, on a Roosevelt. Alors Staline, il est un peu gris, il a été à un moment un peu avec Hitler pour se partager la Pologne, et puis après il est passé dans l'autre camp. Mais il a quand même, comme disait Churchill, permis de gagner la guerre. Et on a des gens
On a
comme
De
De Gaulle.
Gaulle aussi, on a De Gaulle
Il y a eu
aussi.
Tito, il y a eu des grands personnages. Donc on a eu de chaque côté des hommes, certes imparfaits de chaque côté, mais encore plus imparfaits, je dirais, du côté du mal, mais des hommes capables de canaliser cette énergie-là. Et les problèmes commencent déjà quand un être humain commence à vivre mentalement et plus émotionnellement. Son mental, déjà, lui permet de recevoir, peu importe ses rayons, sa nature, le mental lui permet de canaliser une forme d'énergie de volonté. Mais s'il est en plus sur le premier rayon, ceux qui sont polarisés mentalement, voire même spirituellement, sont des grands canaux de cette énergie-là. Et là, le problème, c'est tout va dépendre de leur degré de pureté, de leur intention. Alors, mais il va sans dire que des Mussolini, des Hitler et Hanami et d'autres n'étaient pas du tout des hommes de bien. Et il voulait vraiment assouvir,
À servir la planète.
asservir la planète. Voilà. Et on voit bien que la planète a lutté pour sa liberté. Et on retrouve bien la volonté de victoire. C'est une volonté de liberté, d'arriver à une liberté. C'est ça derrière le dessein même de cette planète. Et on a eu en face des grands hommes, fort heureusement, qui se sont opposés à. Donc les alliés se sont. les grands représentants et les grands généraux se sont opposés à ces forces-là.
On voit bien que c'est des gens très particuliers. Par exemple, De Gaulle, quand il a commencé à dire « je représente la France », il était tout seul. Et de même, Churchill, il s'est lancé dans la guerre, la Grande-Bretagne n'était pas prête du tout, mais il y croyait, et c'est ça, c'est là qu'on peut voir une vraie incarnation de volonté, de puissance, dans le bon sens du bien.
Tout à fait, il fallait dans chaque pays faire comprendre au peuple, et après à la terre entière, qu'il fallait lutter. Et on avait soit des pro-nazis, des gens qui trouvaient très bien Hitler, soit on avait des gens intéressés à un point de vue commercial pour faire des affaires aussi. Donc ça, c'est les grands profiteurs. Ou alors on avait les pacifistes,
oui,
les grands idéalistes, même plus que ça, certains qui pensaient qu'il fallait la paix, qu'il suffit de dire la paix pour avoir la paix. Et ça a toujours été un problème au niveau de l'humanité. C'est ça, ça la protège et en même temps c'est un problème. C'est son inertie à répondre à l'énergie de volonté. Autant certains y répondent mal, mais l'autre problème, c'est le manque d'inertie et la difficulté pour l'humanité à répondre en
on laisse
groupe.
Faire, on laisse voilà. faire, on laisse faire le mal, ce qui ne va pas.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours des représentants très forts pour cristalliser, incarner, servir presque de générateur d'énergie à la volonté pour lutter contre le mal. Parce que le mal ne peut être arrêté qu'avec une volonté aussi puissante, mais une volonté de bien. Et c'était ça, en fait, quelque part, les dessous de la guerre, c'est qu'il y a eu une lutte de volonté pour asseoir soit la domination du mal, c'est-à-dire de la matière sur l'esprit, c'est ça le mal, soit une volonté de victoire pour faire en sorte que l'esprit, que la liberté, que les vraies valeurs humaines, fraternelles, prennent le pas sur des valeurs fascistes, nazis, ou militaristes. Ça a été le véritable enjeu. Et dans les enseignements d'Alice Bailey, on trouve l'idée que les instances supérieures de la planète, on parlait de Shambhala tout à l'heure, ont invoqué, avec l'aide de l'humanité, avec l'aide de la hiérarchie, il y a une invocation d'un grand être qu'on appelle l'avatar de synthèse.
Alors, cet être avatar de synthèse, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la synthèse ? Parce que c'est important de comprendre ce qui est le concept, de ce qu'il y a derrière ce mot.
Alors, je dirais que si on mêle ensemble la volonté d'initier, Mercure, la volonté de persévérer avec Mars, la volonté de la Terre de victoire, il y a une planète qui les synthétise, c'est Uranus. C'est une planète de synthèse. Et la synthèse, c'est le fait de connaître depuis le début, de connaître le milieu, la fin, de connaître toutes les phases du développement de la volonté. C'est ça la synthèse, quelque part.
D'intégrer, alors.
C'est une énergie qui va intégrer tout ce qui semble disparate, différent, et parce qu'il y a un dessein derrière qui est dirigé, c'est l'énergie de cet avatar, un dessein, une volonté qui est dirigée pour accomplir ce qui est prévu depuis le début, ce qui est en train de se mettre en place et ce qui aboutira. C'est comme si le passé, le présent, le futur étaient synthétisés en même temps, et que cette volonté irrésistible va faire en sorte, par la synthèse, va faire en sorte que le dessein soit entièrement manifesté. Donc c'est une sorte de réunion des trois types d'énergie et même quelque chose qui les dépasse.
Alors cet avatar de synthèse, il travaille via l'avatar, le Christ, le Maitreya, mais il travaille aussi par rapport à des groupes politiques, l'ONU, des choses comme ça. Donc son énergie, est-ce que tu peux nous dire comment son énergie se manifeste sur Terre, qu'est-ce qui se passe
Alors, il est en lien avec Shambhala, mais il agit à travers le représentant de la hiérarchie des maîtres. On le nomme Maitreya, il a d'autres noms. Et lui travaille à travers des maîtres du premier rayon, dont Maurya, qui descend de cette fameuse famille des Harikula, dont on parlait avant, Maurya.
C'est un prince Rajput, hein ?
Voilà, c'est un prince Rajput, c'est un guerrier Kshatriya. Et un autre qui est le Manu, justement. Donc le Manu est vraiment un maître. Donc avec le Manu et Maurya, on comprend le lien, et Maitreya, le leader des maîtres, il y a un triangle, et cette énergie est libérée dans le monde, et elle agit principalement, dit les enseignements d'Alice Bailey, et également Benjamin Crème, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, à travers l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec l'idée, pas le Conseil de Sécurité, mais l'Assemblée Générale, avec l'idée que tous les peuples, ensemble, puissent coopérer ensemble, et se synthétiser, choisir le dessein juste pour la planète, choisir les grandes décisions.
Donc,
Qui
ça, en
sont
fait, c'est une
injustes.
sorte de synthèse de gouvernement mondial, quoi, d'union des peuples. Donc, c'est intéressant de voir comment cette notion de pouvoir de guerrier peut être utilisée dans des exercices de paix, parce que finalement, l'ONU, c'est une entité qui est un organisme qui va permettre d'installer la démocratie et la paix sur Terre.
Et j'entendais Benjamin Crème qui parlait d'un pays, une voix, donc on en est encore très très loin. Hein. Avec le Conseil de sécurité, il y a toujours ces veto qui sont mis. Donc là, ça serait l'idée qu'il y a environ 200 pays, plus ou moins, mais que chaque pays égale une voix et qu'il y ait une concertation, une fusion, un consensus pour décider des grandes choses qui dépassent le cadre d'un seul pays, le cadre d'une culture. Donc il y a un respect de la diversité liée aux identités, aux cultures et aux politiques de chaque pays, mais il y a aussi quelque chose de plus grand, et c'est ça la synthèse, quelque chose qui dépasse cela et qui doit aller, qui doit être mis en place pour le bien de tous. C'est une forme de volonté pour le bien commun. Et c'est cette énergie, au fur et à mesure, dans les années, à mon avis, qui va peu à peu s'exprimer dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, et c'est une énergie de synthèse, c'est une forme d'internationalisme où on est capable de respecter les variétés de chaque pays, mais de comprendre ce qui est le plus important et ce qui dépasse l'intérêt national, pour l'intérêt international. Par exemple, les ressources dans le monde, on est en train en ce moment, depuis plusieurs années, de comprendre si ces ressources sont une.
Voilà, cette émission s'achève. Nous espérons vous avoir donné quelques ouvertures sur ce qu'était un guerrier juste et son apport dans la vie de l'humain.
Merci Dominique.
Bonne soirée sur IDFM.